Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau d'Épicure, en vrai sardanapale.
J'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. Et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seule, ce pays mal pensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil en val, ovale, déformé par son éclosion. Et l'équipe des Nouveaux Chemins prend conscience de son état de grâce. Marianne Chassor, Lucie Tardy, Antoine Ravon, David Pargamin, Denis Ramon et bien sûr Adèle Van Rett, avec Nicolas Berger à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Pierrick Monsigny. À quel moment de la journée vous sentez-vous le mieux? Préférez-vous la tombée de la nuit ou l'aube, comme Colette lorsqu'elle était petite et se perdait le long du pli étroit d'une rivière? Préférez-vous un dimanche matin ou un vendredi minuit? Regarder une abeille gloutonner une gelée de framboise ou danser au point de vous y perdre? Faire l'amour ou boire un café au lait? Jouir du silence ou vous enivrer de musique? Si des goûts et des couleurs, on ne dispute pas, des plaisirs, on ne dispute pas non plus. Pourtant, tous conduisent à un seul point, celui de nous absorber en eux, connivence absolue de soi avec le soleil ovale ou le premier oiseau venu, état de grâce indicible ou, selon Épicure, tempête de l'âme enfin dissipée. Là où mènent tous les plaisirs, c'est-à-dire en eux, à se perdre en eux, voilà donc où ça nous mène, à ce paradoxe de se sentir mieux là où on ne se sent plus. Et donc à chercher d'autres plaisirs, à les rechercher encore et encore pour mieux se perdre. On connaît la chanson qui nous rappelle la course effrénée des plaisirs, l'inquiète félicité, les satisfactions éphémères et que l'on accumule, mais connaît-on celle des plaisirs ? À se perdre dans le plaisir, n'a-t-on pas perdu tout autant le plaisir ? À en faire un besoin, le plaisir est-il encore du plaisir ? Coincé entre le besoin et le désir, tour à tour condition ou menace au bonheur, il se loge pourtant là où on tente encore de le trouver. À l'aube, dans une sieste ou dans une gorgée d'eau fraîche, pour lui-même, sans prétention, sans mener à mieux et sans être pire pour autant. Comment dès lors le débusquer sans s'y perdre ou sans le perdre? Là où il y a plaisir, les arguments manquent, les concepts s'écrasent, au mieux on vit ce dont on jouit, au pire on le décrit. Des plaisirs, ne devrait-on donc même pas discuter? Comment prendre du plaisir à parler plaisir? Pour le plaisir et pour lui-même, et pour cette dernière semaine de l'année avant l'été, nous ne tenterons ni de discuter ni de disputer des plaisirs, mais bien de se les accorder en récompense. Du plaisir du texte de Barthes à la jouissance dans la douleur, jusqu'à faire un éloge du plaisir solitaire. Mais aujourd'hui, retour aux sources du plaisir, c'est de l'hédonisme antique qu'il sera question en compagnie de Vula Tsuna, professeur de philosophie antique à l'Université de Californie Santa Barbara, auteur notamment de Connaissance, plaisir, bonheur, études sur les socratiques et les philosophes de la période hellénistique, et qui a contribué également à la traduction des textes épicuriens aux éditions de la Pléiade. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, je voudrais tout d'abord vous remercier de cette invitation. Ça me fait très grand plaisir d'être ici. Et aussi, je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs. Le français n'est pas ma langue natale, donc il y aura des fautes. Je chercherai des mots, mais j'espère que ça ne sera pas trop mal.
Non, c'est déjà parfait. Merci d'être là.
La fortune d'un nom est étrange. Il en est qui se déforment à l'usage. Ils deviennent synonymes de défauts qui n'ont rien à voir avec la vie ou la doctrine du personnage qui a porté ce nom. Celui d'Épicure pourrait certainement servir d'exemple. Un épicurien, c'est aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui emploient cette expression, un homme qui se livre immodérément à tous les plaisirs de la chair, qui répond à l'appel de la volupté sous toutes ses formes, qui se donne à la jouissance, et en somme, une existence épicurienne, c'est une manière de vivre qui se termine généralement, dans l'opinion populaire, par la goutte, la calvitie, les rhumatismes ou la cirrhose du foie. Et dont la devise vulgaire serait « courte et bonne ».
Vulatsuna, on vient d'entendre la voix de la princesse Bibesco. Alors la princesse Bibesco, c'est Marthe Bibesco, c'est une femme de lettres française d'origine roumaine, dont on a entendu la voix donc en juin 1956, et qui souligne les malentendus autour d'Épicure. On se trompe souvent sur ce que veut dire être un épicurien, mais est-ce qu'on se trompe tant que ça quand on dit qu'un épicurien est celui qui recherche de manière effrénée les plaisirs ?
Oui, je crois qu'on se trompe beaucoup quand on pense ça. Il ne s'agit pas d'une philosophie de la volupté modérée. C'est un malentendu qui a commencé déjà dans l'Antiquité. Les épicuriens, très souvent, on le représente comme des débauchés. D'autre part, ils insistent que c'est pas du tout ça. On va voir les raisons doctrinales pourquoi ceci est le cas. Mais en bref, peut-être pour commencer cette discussion, ce qu'Épicure fait est de redéfinir la notion du plaisir. Et ce qu'il nous donne, c'est une définition, une conception de plaisir qui est basée sur une division, une distinction entre les plaisirs de mouvement, ce qu'il appelle les plaisirs kinétiques, et les plaisirs de repos, les plaisirs stables, il les appelle catastématiques. Et les plaisirs catastématiques ou le plaisir catastématique, il s'agit d'une condition où la douleur est complètement absente, soit dans le corps, et dans ce cas on parle d'une aponie, de aéponos, qui veut dire douleur, soit dans l'âme, et alors on parle de la taraxie, de nouveau c'est le privatif, et taraqué qui marque, c'est un mot qui marque qu'on ne se sent pas, c'est une espèce de surbance, on se trouve dans un état pas calme, un état psychique
agité,
angoissé, voilà. Et donc l'ataraxie, c'est l'absence de tout ça,
de toute agitation, de toute tempête intérieure,
et aussi que cet état d'agitation très souvent consiste à des peurs, à des angoisses très profondes, et notamment c'est la peur de la mort qui est la source, selon les épicuriens, et la source très profonde de presque toutes nos agitations. D'autres agitations sont, selon Lucrèce, des masques de cette peur très très profonde de l'anéantissement.
Alors à l'époque d'Épicure, il y a beaucoup de philosophes qui réfléchissent sur le plaisir. On trouve par exemple dans le Philèbe, le dialogue socratique de Platon, on trouve une réflexion sur le plaisir, dans le Gorgias également. On trouve aussi dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote une réflexion sur le plaisir. Alors pourquoi est-ce Épicure qui reste entaché, qui a, comment dire, pâti de ces malentendus, alors même que la définition qu'il donne du plaisir, quand on vous écoute, Vulatsuna, c'est un plaisir qui relève de la vertu, qui est identifié au bien, qui mène au bonheur, c'est un plaisir qui est réfléchi. Alors pourquoi ces malentendus autour d'Épicure, alors même qu'il fait partie d'un mouvement de pensée autour du plaisir?
Oui. Je crois qu'on doit regarder un peu avant Épicure, ce qui se passe. Et vous avez absolument raison de parler de Platon. Épicure professe de ne profiter de personne d'autre sauf Démocrite, la physique duquel il emprunte et il modifie. Mais en fait, je suis tout à fait convaincue qu'il connaît Platon très bien. Il connaît les réflexions de Platon sur le plaisir qui sont très différentes de dialogue en dialogue, remarquez. Mais il y a là, par exemple, dans le Gorgias, et ça a beaucoup à faire avec la distinction dont j'ai déjà parlé, il y a dans le Gorgias un argument où celui qui est en quête de plaisir est comparé à une espèce de... au mythe des Danaïdes, c'est une
un tonneau, disons, qui se vide sans cesse.
Qui, voilà, on a des désirs, on est rempli, mais l'eau coule et on doit toujours remplir, remplir de nouveau et de nouveau ce vaisselle, quoi. Platon, Socrate, le Socrate platonique dit que est-ce que ça peut être un idéal de vie? Évidemment pas. Et Épicure répond précisément à ça en introduisant le plaisir catastématique. Je crois qu'il connaît très bien toute cette problématique autour du plaisir. D'autre part, dans le Philèbe, il y a cette espèce de distinction entre les plaisirs nobles, les plaisirs de bons plaisirs et de mauvais plaisirs, des plaisirs qui sont des plaisirs vrais et d'autres qui sont faux. Et ça, Épicure, comme il est un hédoniste, il doit le nier.
Tous les plaisirs sont vrais, c'est ça?
Tous les plaisirs sont des biens intrinsèques, mais il n'en suit pas que on doit tous les choisir. C'est-à-dire, il y a une espèce de calcul. On regarde aux conséquences long terme pour le bonheur. Épicure est un eudémoniste, donc il y a plusieurs plaisirs que, malgré le fait qu'ils sont des biens en eux-mêmes, nous ne devons pas les choisir et nous ne les choisissons pas. Alors voilà sa réponse à la préoccupation de Platon telle que nous la voyons dans le Philèbe.
Frédéric ! Viens ici ! Fais sortir tes mains. Tu seras privé de foot dimanche.
Oh non, mon père, soyez pas vache, pas le foot.
Petit misérable.
C'est pas moi, mon père, c'est elle qui a commencé, c'est la Claudine.
C'est toujours elle qui commence, petit imbécile. Quel âge as-tu?
14.
Oh les chiennes, elle s'attaque aux enfants.
Tu veux savoir avec qui elle couche, ta Claudine? Rémi. Clameau, le nouveau vétérinaire, le vieux l'ermite, j'en passe et des meilleurs. Ferme ta braguette.
Je me suis fait avoir exactement comme toi, mon petit gars, à ton âge. Mes parents avaient une petite bonne, 19 ans, elle arrivait de Bretagne, toute neuve.
Épargnez-nous la suite, on connaît l'engrenage.
Ça sent le café, le savon de Marseille.
On se confesse et on recommence le lendemain.
Voilà. Et à 40 ans, on est une épave. C'est ça que tu veux?
Non, monsieur.
Mais voulez-vous parier qu'il n'a même pas dîné? Hein? Réponds! As-tu seulement mangé un morceau avant d'aller au cinéma avec ta grue?
Non, mon père.
Mais petit con, tu sais pas qu'avec un organisme sous-alimenté, tu risques de choper le premier microbe venu?
Mais écoute, monsieur, il dit docteur!
Des maladies vénériennes, j'en ai vu défiler des centaines dans mon cabinet. C'est ça que tu veux, hein? Pisser les lames de rasoir!
Je vais pouvoir boire de vin! Allez, va te laver les mains, comme une assiette!
C'est bon?
Oui, monsieur.
T'as goûté la charlotte aux pommes?
Oui, monsieur.
T'as toujours envie d'aller tripoter la Claudine?
Non, mon père.
Pourquoi?
Parce que je préfère la charlotte.
Quand nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, ni de ceux qui consistent dans les jouissances. Comme le croient certains qui, ignorant de quoi nous parlons, sont en désaccord avec nos propos ou les prennent dans un sens qu'ils n'ont pas, mais du fait, pour le corps, de ne pas souffrir, et pour l'âme, de ne pas être troublée. En effet, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes garçons et des femmes, ni celles que procurent les boissons et tous les autres mets qu'offre une table abondante qui rendent la vie agréable. C'est un raisonnement sobre qui pénètre les raisons de tout choix et de tout refus et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Or, le principe de tout cela, et le plus grand bien, c'est la prudence. C'est pourquoi la prudence est plus respectable encore que la philosophie, car elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, enseignant qu'il n'est pas possible de vivre de manière agréable sans vivre de manière prudente, belle et juste. Pas plus qu'on ne peut vivre de manière prudente, belle et juste sans vivre de manière agréable. Car les vertus sont naturellement liées à la vie agréable, et la vie agréable en est inséparable.
Vulatsuna, c'est un extrait de la célèbre lettre à Ménécée d'Épicure que l'on vient d'entendre interprété par notre comédien Vincent Schmitt. Extrait qui va dans le sens contre toute attente de ce qu'on a entendu dans le film de Bertrand Blier, Calmos, qui date de 1977, où les personnages interprétés par Bertrand Blier, Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle font une leçon de morale au petit Frédéric parti se débaucher avec la Claudine. Ils lui font en fait une leçon d'épicurisme proche du sens originel de l'épicurisme lui-même, c'est-à-dire la prudence, la sobriété, l'idée d'atteindre un état sans trouble. Mais dans ce cas-là, que reste-t-il du plaisir dès lors que l'on suit l'éthique épicurienne? On ne profite plus de rien finalement.
Ah, bon, c'est un malentendu de penser d'épicurisme comme une doctrine de débauché. Mais il s'agit également, je crois, d'un malentendu d'y penser comme une doctrine austère, éloignée du plaisir. C'est-à-dire, tout d'abord, précisément la distinction entre les plaisirs en mouvement, qui sont vraiment des plaisirs provoqué par la satisfaction de besoins. Et on va voir qu'il n'y a pas, il ne s'agit pas simplement des besoins nécessaires, et ils peuvent être des désirs, comme le désir d'aller au cinéma, quoi. Alors il y a un mouvement, c'est un plaisir kinétique qui correspond et qui répond à une espèce de besoin. Et d'autre part, c'est ce plaisir de repos, le plaisir catasthématique, le corps de ne pas souffrir, l'âme de ne pas être troublée. Et ça, c'est une condition de stabilité. Donc, il n'est pas vrai que ce que nous entendons par plaisir d'habitude n'est pas là dans la doctrine épicurienne. C'est bien là. Le problème est que faire avec le plaisir catastématique, parce que c'est là que, par exemple, Cicéron, qui reproduit peut-être une question de l'Académie de Platon contre Épicure, il dit, mais pourquoi est-ce que vous appelez, vous utilisez le mot plaisir pour ces deux choses? Ce sont des choses tout à fait différentes. Et en fait, Cicéron fait référence à d'autres philosophes, Hiéronyme par exemple, qui pense que l'absence de douleur c'est le but, c'est le bien suprême, mais il ne l'appelle pas plaisir, dit Cicéron. Donc pourquoi est-ce que vous l'appelez plaisir?
Et finalement, pourquoi aussi plaisir alors que c'est une absence de trouble? C'est plus un plaisir approché en négatif.
Voilà, précisément, c'est décrit en termes négatifs. La réponse que j'aurais à donner, c'est que il y a quand même une chose que ces deux types de plaisir ont en commun, et ça, c'est un sentiment très agréable, un sentiment de bien-être. Et je crois que on éprouve le sentiment, selon Épicure, on éprouve ce sentiment de bien-être quand on est au soleil, on ne fait rien, on ne pense à rien, mais aussi on ne sent aucun mal, on ne souffre pas. Alors c'est un sentiment de bien-être comme ça. Et en même temps, c'est un sentiment de bien-être quand on boit un verre d'eau parce que on a soif, voire plaisir kinétique ici. Donc je crois que c'est ça qui lie ces deux, je dis types de plaisir, parce que quand même il y a un débat, quelle est la relation entre les plaisirs catastématiques et les plaisirs kinétiques. Les textes d'Épicure indiquent que les plaisirs kinétiques, les plaisirs qui consistent en mouvement, sont soit des étapes vers l'état de l'aponie, l'état catastématique où la douleur est complètement absente, soit des variations de cet état. Par exemple, je suis à la maison, je me repose, je ne pense à rien, je ne souffre pas, je n'ai pas vraiment de besoin de boire quelque chose, mais je choisis d'avoir un verre de vin blanc. Alors ça, c'est une variation de la situation catastématique.
Et donc là, à ce moment-là, ça se transforme en plaisir cinétique, le moment où je décide d'aller chercher un verre de vin blanc?
Le plaisir de boire un verre de vin blanc, le processus par lequel je le fais et la satisfaction que j'en dérive, ça c'est un plaisir kinétique.
En mouvement, donc.
Je crois que c'est une espèce d'épiphénomène, c'est quelque chose qui est au-delà de la situation catastématique. Et sur ce point-là, il y a quand même de désagréments. Il y a des gens qui pensent que, en fait, le plaisir de boire un vin de vin quand je suis dans un état catastématique, ça aussi c'est catastématique, mais je crois que ça va tout à fait contre le texte. Parce que il y a un désir là. Je désire de prendre un verre de vin. Donc, s'il y a un désir, il y a un mouvement qui consiste à la satisfaction et qui vise à la satisfaction du désir.
Depuis tout à l'heure, vous, Latsuna, on emploie ces termes plaisir, besoin, désir. Or, il faut peut-être les distinguer, c'est-à-dire que si je bois un verre d'eau parce que j'en ai besoin, ça n'est pas la même chose que si je bois un verre de vin, ou un verre d'eau d'ailleurs, parce que j'en ai envie. Or, pour Épicure, il y a plaisir là où il y a besoin plus que désir. Là où il y a besoin, c'est-à-dire j'entends quelque chose à la fois de naturel et de nécessaire.
Il y a une classification que Épicure introduit dans la lettre à Ménécée. C'est une classification entre des types différents de désirs. Et c'est d'ailleurs un des piliers de l'éthique épicurienne, que pour pouvoir être heureux, nous devons une des choses que nous devons faire, c'est comprendre notre propre nature, aussi bien que la nature en large. Donc, la nature en large, on doit comprendre la constitution atomique de tous les agrégats qui constituent notre monde, et ça, c'est nous-mêmes aussi. Mais sur... en tant qu'être humain, donc en tant qu'agrégat d'atomes et de vide, nous avons des propriétés qui n'appartiennent pas aux atomes. Donc, une parmi elles sont nos désirs. Et Épicure, dans la lettre à Ménécée, il fait une classification des désirs entre les désirs naturels et les désirs non naturels, ce qu'il appelle les désirs vides. Et vides pourquoi ? Vides parce que leurs objets n'ont pas de valeur.
Donc par exemple
le plaisir, le désir de devenir richissime. Le désir d'acquérir une très grande réputation. Le désir de devenir un tyran. Le désir de pouvoir avoir des plaisirs illimités et sans restreint. Les plaisirs de Calliclès dans le Gorgias. Voilà les plaisirs vides, mais les plaisirs naturels sont aussi subdivisés et entre des plaisirs qui sont naturels et nécessaires.
Comme boire et manger.
Comme boire et manger quand on a faim et quand on a soif. Et des plaisirs qui sont naturels mais non nécessaires.
Comme boire un verre de vin quand on n'en a pas besoin.
Ou à faire l'amour. Parce que pour Épicure, ça c'est un plaisir naturel mais pas nécessaire.
Et alors dans ce sens-là, justement, faire l'amour c'est très intéressant. C'est comme le verre de vin blanc, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de naturel mais ça n'est pas nécessaire. Alors... comment l'épicurisme nous permet peut-être de faire une distinction entre les plaisirs, une hiérarchie, et finalement, sur quels critères on va hiérarchiser ces plaisirs-là ? C'est-à-dire qu'à quel moment faire l'amour s'impose et à quel moment faire l'amour ne s'impose plus ?
Il adresse cette question précisément, nous l'avons ça dans la doxographie, faire l'amour ne fait jamais de bien. On peut la voir quand ça ne fait pas de mal. Donc, c'est un plaisir naturel.
Ah oui, mais alors comment
naturel.
On sait, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais avant de faire l'amour comment ça va se passer, donc...
Oui, mais ça, d'après ce que je sais, il ne creuse pas la question à fond. Mais c'est quand même une bonne illustration de ce qu'il pense. Alors, bon, il y a une hiérarchie là. Les désirs qui sont des désirs naturels et nécessaires sont des désirs que si nous ne satisfaisons pas, nous sommes morts.
Oui, en fait, c'est des besoins, finalement.
C'est des besoins qui ont à faire avec la survie. C'est survivre de prendre la nourriture dont on a besoin. Mais d'autre part, Épicure dit dans plusieurs passages, pas seulement Épicure, mais aussi les épicuriens de la première génération, comme Maître d'Or, comme Hermarque, mais aussi Lucrèce, aussi Philodème, donc nous aussi Diogène de Noanda. Donc nous allons du 3e siècle avant notre ère au 2e siècle après notre ère, le début de notre ère. Un demi-millénium, ils parlent de ça. Et il y a des distinctions qui ont à faire précisément avec la nature du désir et des distinctions qui deviennent de plus en plus fines. Philodème, par exemple, parle des désirs qui nous attaquent comme s'ils étaient des tempêtes et d'autres qui sont des désirs souples. La satisfaction, je pense que quand nous parlons d'une faim très grande parce que il n'y a pas eu de nourriture pendant 2 jours, ça c'est une espèce de besoin, désir, besoin qui nous prend comme une tempête, qui nous attaque comme une tempête. On doit le satisfaire si on veut survivre.
Elle va goûter sur ses mordus, le succulent fruit défendu, le bonheur vaut la réprimande, le bonheur vaut la réprimande. Ulysse n'est pas revenu, Pénélope n'en peut plus.
Vite
un homme pour la gourmande, vite un homme pour la gourmande.
Profitons de l'instant, saisissons le présent, osons, ne restons pas inertes. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu. En été, en automne, en hiver, au printemps, entrons si la porte est ouverte. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu.
Elle est si bonne, l'eau Jésus, quelle idée de marcher dessus. Viens te baigner, rejoins la bande. Viens te baigner, rejoins la bande. Jeanne épucelle à son insu, elle a tout donné, rien reçu. Du bûcher qu'on la redescende,
du bûcher
qu'on la redescende.
Profitons de l'instant, saisissons le présent, osons, ne restons pas inertes. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas le plaisir superflu. En été, en automne, en hiver, au printemps, entrons si la porte est ouverte. Quand le monde court à sa perte, il n'est pas de plaisir superflu.
3. Il est 10h31, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est le premier moment de notre dernière semaine de la saison, et elle est consacrée au plaisir, et ce premier moment concerne l'épicurisme et l'hédonisme antique, en compagnie de Vula Tsuna, professeur de philosophie antique à l'Université de Californie Santa Barbara, auteur notamment de Connaissances, Plaisir, Bonheur, études sur les socratiques et les philosophes de la période hellénistique, mais qui a aussi contribué aux traductions des textes épicuriens aux éditions de la Pléiade.
Ceux qui restèrent fidèles au mode de vie d'Aristippe et furent appelés cyrénaïques professaient les doctrines suivantes. Ils posaient à la base 2 affections, souffrance et plaisir. L'une, le plaisir, est un mouvement lisse. L'autre, la souffrance, un mouvement rugueux. Un plaisir ne diffère pas d'un plaisir et quelque chose n'est pas davantage source de plaisir qu'autre chose. Le plaisir semble bon à tous les vivants, alors que la souffrance, ils estiment devoir la repousser. Par plaisir, toutefois, ils entendaient le plaisir du corps, qui est aussi pour eux la faim, et non le plaisir au repos, qui dépend de la suppression des douleurs et se veut une espèce d'absence de trouble. Plaisir admis par Épicure et que celui-ci donne comme faim. Le plaisir particulier doit être choisi pour lui-même, tandis que le bonheur ne l'est pas pour lui-même, mais à cause des plaisirs particuliers. La preuve que le plaisir est la fin, c'est que dès l'enfance, nous lui sommes instinctivement attachés, que si nous l'avons rencontré, nous ne recherchons rien de plus, et que nous ne fuyons rien tant que son contraire, la souffrance. Le plaisir est un bien, même s'il procède de la conduite la plus honteuse. Car même si l'action était déplacée, il n'en resterait pas moins que le plaisir devrait être choisi pour lui-même et serait un bien.
Vula Tsuna, on vient d'entendre, interprété par Vincent Schmitt, un texte de Diogène Laërce dans Vie et doctrine des philosophes illustres. Dans cet extrait, il présente l'école cyrénaïque. Alors, c'est une école assez mal connue, fondée par Aristippe, bien antérieure à Épicure et bien différente aussi dans sa conception du plaisir. Pour le coup, Aristippe et les cyrénaïques identifient plaisir et bonheur. C'est-à-dire que, à la différence d'Épicure, le plaisir n'est pas une condition qui va mener au bonheur, le plaisir est sa propre fin. On ne vise pas autre chose que prendre du plaisir dès lors que l'on jouit de quelque chose.
Précisément, les cyrénaïques sont les rivaux. Aristippe est plutôt Aristippe le Jeune, je pense, qui est le descendant d'Aristippe le Vieux, contemporain de Socrate, ami de Socrate. Aristippe le Jeune, c'est celui qui a formulé cette doctrine. Il s'agit d'une doctrine fort intéressante. C'est la rivale, la doctrine rivale principale à l'épicurisme. Donc voyons les différences. C'est une doctrine très frappante parce que c'est la seule doctrine dans l'Antiquité où on peut dire que le démonisme devient dérivatif.
Le démonisme, comme, c'est le fait de viser le bonheur.
C'est le fait de viser le bonheur, mais comme une condition totale qui embrasse l'existence de quelqu'un. Donc, on dit, comme Aristote dit, le bonheur a besoin de temps. C'est une chose qui s'étend. C'est une condition qui s'étend dans la vie de quelqu'un. Mais Aristippe le Jeune, paraît-il, a défendu, excusez-moi, une doctrine très différente, comme vous avez dit, le plaisir qu'on éprouve au moment présent ou à présent, disons pas nécessairement dans un moment, ça peut être une journée, mais le plaisir qu'on éprouve à présent, c'est ça le but suprême, c'est ça le bien suprême. C'est ça et pas le bonheur. Le bonheur acquiert une valeur tout à fait dérivative en tant que simplement l'agrégat des plaisirs instantanés, les plaisirs du moment présent. Et du coup, les plaisirs du passé, nos mémoires des plaisirs passés et notre espoir pour les plaisirs futurs n'a aucun poids moral. Et aussi, donc ça c'est une première chose, une première caractéristique de cette doctrine. Un second, c'est que les Cyrénaïques favorisent le plaisir du corps vis-à-vis le plaisir psychique et mentaux. Ils croient que les plaisirs psychiques et mentaux peuvent être indépendants, mais qu'ils sont inférieurs aux plaisirs corporels. Et l'argument qu'ils donnent en défense de cette position, c'est que toujours dans des cas des châtiments, c'est la douleur corporelle qui est infligée, c'est pas la douleur psychique. Comparons maintenant Épicure, qui forme, à mon avis, son doctrine en répondant aux Cyrénaïques, en répondant de notre côté à Platon, comme nous l'avons dit auparavant. Épicure maintient que le plaisir qui a valeur, c'est plutôt cette condition stable de l'aponie et qu'elle inclut les plaisirs du souvenir et les plaisirs de l'espoir. Le plaisir s'étend sur toutes les modalités temporelles, disons. Et en plus, il croit que les plaisirs les plus intenses sont les plaisirs de l'âme, les plaisirs de l'esprit et de la psyché, plutôt que les plaisirs du corps. En même temps, Épicure, ça c'est une doctrine sur laquelle nous ne savons pas beaucoup, mais ce que nous avons, c'est la déclaration que tout plaisir intellectuel, psychique, tout plaisir remonte d'une certaine façon au corps. Et donc, il réclame.
C'est un fragment d'Épicure qui dit ça?
Oui. Il réclame une base, c'est un fragment d'Épicure qui se trouve dans la doxographie aussi bien que dans les papyrus d'Herculanum.
Sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur ces papyrus,
oui,
s'il vous plaît.
Ce sont des papyrus qui ont été trouvés pendant des fouilles vers 1750. Et il se trouve à Herculanum. C'est une des trois villes qui a été détruite avec l'explosion du Vésuve 79 de notre ère. C'est comme Pompéi et il y a eu il y a eu une bibliothèque là qui a été complètement couverte des débris volcaniques et les papyrus, ce sont des papyrus qui est notre seule source pour l'épicurien le plus important du 1er siècle, Philodème, quelqu'un qui a écrit sur beaucoup de choses. Vous avez d'ailleurs en France un grand spécialiste sur ça, c'est Daniel Delattre, qui a beaucoup travaillé sur ces papyrus, et nous avons collaboré ensemble pour faire les éditions, pour les traductions de Philodème, quelques traductions de Philodème dans la Pléiade. Donc il y a ces papyrus-là, on a commencé à essayer de les ouvrir. Il y a plusieurs qui ont été détruits, mais on a quand même maintenant une partie substantielle de l'œuvre de Philodème. C'est notre seule source. Mais chose qui est encore plus importante, peut-être, c'est que ça, c'est notre seule source du grand livre physique, de physique d'Épicure sur la nature. Et il est très probable que les papyrus que nous avons sont en fait les papyrus du jardin que Philodème a emporté avec lui quand il est parti pendant les guerres contre Mithridate, et il est parti comme plusieurs intellectuels d'Athènes pour aller à Rome, et très probablement il a emporté avec lui une partie du
manuscrit de la physique,
des manuscrits qui se trouvaient dans le jardin. Donc voilà comment nous avons certains manuscrits. Les papyrus qui ont affaire avec sur la nature, et pour le reste il y a beaucoup de philodèmes dans cette collection. Donc voilà, c'est là où nous trouvons la déclaration d'Épicure, entre autres parts. Il y a aussi autre part dans la doxographie où on trouve cette déclaration d'Épicure que tous les plaisirs remontent d'une certaine façon au corps.
Épicure a dit que la physique n'aurait aucun intérêt si elle ne permettait pas d'acquérir la paix de l'âme. Évidemment, c'est parce que il considérait que les hommes étaient terrorisés par la pensée des dieux qui, dans la vie présente, pouvaient sans arrêt agir sur eux, et d'autre part, dans la vie future, qui leur infligerait des tourments épouvantables. Et en plus, il y avait aussi la crainte de la mort.
Ah oui, la pensée
de la mort. Les deux cas, la physique épicurienne était destinée à libérer de ces deux craintes, parce que, comme les épicuriens affirmaient que l'univers était éternel et que les mondes, parce qu'il y avait une infinité de mondes, ils se constituaient par l'accrochage, si on peut dire, d'atomes éternels qui s'assemblaient entre eux, à ce moment-là, les dieux n'avaient aucune influence sur le déroulement des événements. Chez Épicure, l'exercice de la mort, c'est surtout pour bien profiter de la vie. Enfin, là, c'est célèbre, c'est le carpe diem d'Horace, cueille aujourd'hui.
L'homme sensé, à peine a-t-il reçu ce qui peut procurer tout ce qui suffit pour une vie heureuse, se conduit en homme déjà prêt, pour le reste, à être porté en terre. À être porté en terre, et l'espace d'un seul jour vaut pour lui, en termes de profit, une éternité. Et quand il lui est retiré, comme du fait qu'il lui fait pareil accueil, rien ne lui manque de la vie la meilleure, son adhésion est entière. Et s'il avance en âge assurément, recevant à sa juste valeur le sursis accordé par le temps qu'il tient pour une heureuse surprise, de cela précisément, il est reconnaissant aux circonstances. Au contraire, quiconque est de la nature du frelon est incapable de porter attention, même quand il est devenu vieux, au caractère mortel et soumis au trépas de sa constitution. « Vulatsuna, c'est la voix de Pierre Hadot, le grand philosophe spécialiste de l'Antiquité, que l'on a entendu tout d'abord dans une archive de l'émission La vie comme elle va, diffusée sur France Culture le 23 janvier 2003. On y retrouve ce lien entre l'éthique et la physique qui se fait chez Épicure. Et puis juste après, j'ai lu un extrait d'un texte de Philodème des Gadara, donc un auteur qui a hérité d'Épicure. Et l'on retrouve ici ce lien aussi, ce quadruple remède qu'avait prôné Épicure, la mort n'est pas à craindre, qu'on retrouve effectivement sous-tendu à une conception physique du monde. Alors comment le lien se fait entre les deux?
C'est un lien très étroit. Sans la physique, on ne peut pas se rendre compte de notre nature mortelle. La physique atomique nous permet de réaliser le fait que nous sommes des créatures corporelles. Nous sommes des créatures où nous sommes des agrégats d'atomes. Et donc, comme tout agrégat, nous allons être détruits. Et ce que Philodème ajoute, c'est qu'il y a beaucoup de causes de destruction dans nous, en dehors de nous. Et ce qui est vraiment épatant, c'est quand on vit jusqu'à un âge avancé, plutôt que quand on meurt, on est mort prématurément. Il y a deux raisons que la physique atomique nous procure et à cause desquelles on ne doit pas avoir peur de la mort.
Et on va plus profiter des plaisirs aussi.
Oui, on va plus profiter de plaisirs si on cesse d'avoir peur. Donc, une raison, c'est que comme tout bien et mal réside dans la sensation, c'est le plaisir ou la douleur, et que la mort implique l'absence de toute sensation, la mort n'est rien pour nous. Parce que avec la mort s'enlève la condition nécessaire pour avoir du mal. Et puis un second argument, c'est que quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Et quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Donc, la mort, avec la mort, vient nécessairement la destruction complète de l'identité personnelle. Mais ça, ce que Philodème fait dans le traité sur la mort, la partie qui est sauvée jusqu'à aujourd'hui, c'est la péroration du traité, du livre 4. Ce qu'il fait, c'est d'explorer les implications de cette réalisation, les implications de la réalisation que nous sommes des créatures éphémères, des créatures qui sont composées d'atomes et de vide, et que nous allons être dissolus un certain jour.
Mais pourquoi finalement soutenir une théorie des plaisirs, proposer une économie des plaisirs, un quadruple remède? Alors le quadruple remède, c'est le fait de dire que les dieux ne sont pas à craindre, que la mort n'est pas à craindre non plus pour les raisons que vous avez avancées, que le bien est facile à obtenir et que le mal est facile à supporter. Mais finalement, cette théorie des plaisirs, pourquoi la développer? Puisque tout l'enjeu, c'est de ne pas avoir peur de la mort. Or, si l'on dit, il suffit de dire vous n'allez rien sentir quand vous serez mort, et là, vous êtes en vie, donc autant sentir. Or, quand on lit l'extrait de Philodème des Gadara, on a l'impression qu'on a déjà affaire à un homme anesthésié, en fait. Il est dans l'ataraxie, dans l'aponie, finalement, il ne ressent rien. Or, le fait d'être en vie, c'est quand même dans la sensation. C'est même ça le critère du plaisir, la sensation.
Oh, pas du tout, parce que si c'était comme ça, ça serait comme s'il n'y a pas de but de vie. Le plaisir, c'est un but positif. C'est le bonheur. Le plaisir catastématique, c'est le bonheur, c'est identique au bonheur, c'est un idéal éthique auquel nous aspirons. Donc, pour pouvoir vivre ça, pour pouvoir acquérir ça, on a besoin d'enlever la douleur. La douleur la pire, c'est la douleur psychique. La douleur la pire, c'est celle qui vient de la crainte. Donc, si on vit toujours avec la crainte de la mort, la crainte de Dieu, les superstitions, la crainte que peut-être nous ne pouvons pas acquérir les biens que nous devons, que nous voulons, ou la crainte que si le mal arrive, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas le supporter. Alors là, on ne peut pas vivre heureux. On ne peut pas avoir le plaisir. D'autre part, si, comme vous avez dit, ce médicament de l'âme quadruple consiste à 4 principes, nous ne devons pas craindre les dieux. Pourquoi ? Parce que ils sont éternels, ils sont toujours heureux et ils ne s'occupent pas de nos affaires. Ils servent des idéaux éthiques, mais c'est pas comme s'ils vont nous punir pour quelque chose. On ne doit pas craindre la mort pour les raisons que je viens déjà de citer. Le troisième principe, c'est que le bien est très facile à acquérir. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple.
Oui, si finalement, il suffit de ne rien faire ou du moins de contrôler ses désirs.
Si on devient épicurien, si on fait de la philosophie, si on comprend de quoi il s'agit, ce qu'est le monde et ce que nous sommes nous-mêmes, alors nous comprenons que c'est assez facile d'obtenir le plaisir. Il n'y a pas beaucoup de choses extérieures dont on a besoin. Pierre Hadot parlait de la citadelle intérieure par rapport au stoïcisme, mais aussi par rapport à l'épicurisme. C'est une citadelle intérieure que nous pouvons garder et par le moyen des principes de l'épicurisme, et que la douleur n'est pas à craindre, parce que si elle est très forte, alors elle nous tue, et si elle n'est pas forte, ça veut dire que nous avons plus de plaisir que de douleur. Donc si on comprend tout ça, alors on peut viser à ce but positif qu'est le plaisir catasthématique.
Hey, j'aime la vie tranquille, moi je suis né comme ça. Pour ce qui est facile, on peut toujours m'appeler, je suis là. Aïe, j'aime la vie tranquille, sans bruit et sans effort. Je ne suis pas difficile, ou bien je bois, ou je mange, ou je dors. Mais on ne fait jamais ce que l'on veut, il y a autour de moi des gens nerveux qui du matin au soir sont survoltés et m'obligent à mon tour à me presser. Je suis dans la cohue et je circule, ça crie et ça craque. On me tire, on me pousse, on me bouscule, ça me rend pas traque. Soudain j'ai l'impression que je suis fou, moi qui adore aller tout doux tout doux. On me force à courir, à m'agiter, et cependant si vous me connaissiez. J'aime la vie tranquille, à l'ombre des grands pins. Je suis plutôt fragile, moins je travaille et plus je me sens bien. Oui, oui,
merci beaucoup, Vula Tsouna, d'être venu ouvrir cette semaine sur le plaisir. Je rappelle que vous avez contribué à l'édition de la Pléiade consacrée aux épicuriens, que vous êtes aussi l'auteur de Connaissance, plaisir, bonheur, études sur les socratiques et les philosophes de la période hellénistique. C'est aux éditions Athènes. C'est une collection d'articles traduits en grec moderne. Que vous êtes aussi l'auteur de 3 ouvrages en anglais, donc l'épistémologie de l'école cyrénaïque, c'est aux presses de Cambridge, de l'université de Cambridge. Aussi de l'éthique de Philodème, ça c'est disponible aux presses de l'université d'Oxford, et puis aussi de Philodème sur les choses à choisir et à éviter, c'est chez Bibliopolis Press. Alors il s'agit d'une édition critique d'un des papyrus d'Herculanum dont on a parlé sur l'éthique épicurienne, et c'est un livre qui a reçu le prix de Théodore Mommsen. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine hédoniste, et demain nous parlerons de Roland Barthes et du plaisir du texte en compagnie du grand spécialiste Éric Marty. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.